La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et Elisabeth Assayag qu'on retrouve maintenant pour sa solution du jour.
Et oui, quand on est malade ou qu'on a une personne âgée à la maison, on a parfois besoin d'un accompagnement particulier, notamment pendant la nuit. Et pour répondre à ce problème, Elisabeth, eh bien, il existe Ernesti.
Oui, Ernesti, c'est une plateforme. Elle met en relation des étudiants du domaine de la santé avec des aidants qui cherchent une solution pour assurer une présence de nuit au domicile d'un parent en perte d'autonomie. Il faut dire qu'il y a un besoin, hein, parce que généralement, passer 19h, c'est de plus en plus compliqué de trouver des professionnels disponibles pour rester à la maison. Et les aidants ont besoin de repos. Grâce à cette plateforme, la famille choisit une personne qui restera faire les nuits à la maison. Bonjour Quentin Zacoyan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur d'Ernesti. Alors vous avez fondé Ernesti en 2017. Comment vous est venue cette idée, puisque vous étiez en train de faire des études pour devenir ingénieur.
Donc, exactement.
Comment c'est arrivé?
Mais en fait, Ernesti, ça part d'une histoire familiale. J'ai ma mère qui est médecin dans la région bordelaise et qui en fait avait dans sa patientèle des patients qui venaient lui parler de cette situation qui est qu'ils sont aidants familiaux d'un parent en perte d'autonomie, qu'ils arrivent à trouver des solutions pendant la journée avec le passage le matin d'une aide-soignante pour la toilette, infirmière pour les soins, auxiliaire de vie pour le ménage, etc. Mais que le problème, c'est que passé 19h, ben en fait, tout ce personnel professionnel a aussi une vie de famille et donc rentre chez soi. Et en fait, quand on s'occupe d'un parent en perte d'autonomie, il peut arriver des problèmes du style risque de chute ou déambulation la nuit ou angoisse en fait à l'idée de rester tout seul ou même pire encore sortie du domicile. Et en fait, en France, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que quand on commence à avoir ce genre de problème, c'est souvent direction la maison de retraite parce que les aidants sont hyper rapidement épuisés, ce qui est complètement normal.
Parce que c'est 24 heures sur 24.
Exactement.
Heures. Comment vous y êtes pris? Vous êtes allé voir des directeurs de maison de retraite? Vous avez fait quoi pour mettre en place Ernesti?
Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma sœur, en fait, Séverine, donc ma cofondatrice, sœur jumelle même si elle ne me ressemble pas.
Donc on peut travailler en famille.
Exactement, ça rejoint tout à l'heure. L'idée, c'est qu'en fait, Séverine, elle a accompagné via en fait l'entremise de ma mère médecin des personnes âgées sur plusieurs années. Donc elle a effectivement exactement réalisé ce que fait Ernesti aujourd'hui. Et en fait, on s'est dit que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait absolument reproduire à grande échelle. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on connecte les aidants familiaux qui recherchent une présence de nuit pour leurs proches en perte d'autonomie à des étudiants en santé.
Alors les étudiants en santé, qui sont-ils? Ce sont... Parce qu'il y a des critères, ouais. Pour tout le monde
bien
ne
sûr.
Peut pas s'occuper d'une personne malade,
absolument.
Âgée.
Absolument.
Comment faites-vous?
Nous, donc voilà, c'est des étudiants en médecine ou en paramédecine. Donc en gros, le gros de nos troupes, ça va être des étudiants en médecine. Ils vont arriver en général en deuxième, troisième, quatrième année. Ou des étudiants en soins infirmiers, deuxième, troisième année. On a aussi pas mal d'étudiants en orthophonie, en psychomotricité, en ergothérapie, etc. En fait, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est de pouvoir avoir une pluridisciplinarité des profils qu'on propose d'étudiants. Parce qu'en fait, ça nous permet de proposer des profils adaptés en fonction de la typologie de pathologie de la personne. Typiquement, un début d'Alzheimer, on va peut-être plutôt proposer des étudiants en orthophonie, peut-être plus sur une chimiothérapie, peut-être plus des étudiants en soins infirmiers, etc.
Et finalement, c'est la famille qui choisit l'étudiant qui restera pendant la nuit. Ça,
absolument,
c'est important.
Absolument. Pour nous, c'est vraiment hyper important de vraiment mettre la famille au cœur du processus de sélection.
Il faut un lien de confiance.
Absolument, c'est hyper important. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, quand une famille vient nous voir, on va ensuite lui proposer des profils vidéo d'étudiants. Donc, c'est des profils vidéo d'étudiants où ils se présentent pendant une minute. Je m'appelle comme si, j'aime cela, j'aime ceci. Et en fait, ça permet tout de suite d'éliminer le premier filtre qui est je ne sais pas qui c'est qui va venir taper à la porte chez moi. Je peux vraiment choisir parmi mes étudiants celui qui a l'énergie qui me correspond le mieux. Et voilà, on supprime ce filtre le plus rapidement possible.
Notre coach Jean Moreau, fondateur de Phoenix.
Bravo pour cette idée. Je pense que ça va bien marcher.
Merci beaucoup.
Comment, d'un point de vue étudiant, qu'est-ce que ça m'apporte? Moi, si je suis étudiant, je veux le faire. Quelles sont les contraintes et les contreparties?
Ouais. En fait, ce qu'on aime beaucoup chez Ernesti, c'est que c'est vraiment très complémentaire avec la formation des étudiants. Beaucoup en fait des étudiants qui viennent nous voir, par exemple qui sont en médecine ou en soins infirmiers, en fait recherchent ce contact intergénérationnel parce qu'ils sont souvent des étudiants qui sont loin géographiquement de leurs grands-parents, donc ils sont contents de passer du temps avec ces personnes qui ont parfois 70 ans d'écart. Et en plus de ça, c'est hyper complémentaire avec la formation parce que voilà, on apprend, même s'ils font là ni soins ni ménage, ils assurent uniquement une présence humaine, c'est important de le dire. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'ils voient l'évolution d'une pathologie sur le long terme. Ils voient voilà, comment se comporter face à la dépendance. On apprend énormément en termes de savoir-être. Et je pense que c'est très important pour des médecins et pour des futurs infirmiers de savoir en fait comment ça se passe, le maintien à domicile d'un point de vue pratique, comment ça se passe à l'intérieur de la maison.
Alors, combien coûte une nuit pour la famille, mais aussi pour l'étudiant? Parce que c'est une façon aussi d'arrondir ses fins de mois.
Absolument. Alors, l'étudiant, lui, va gagner 50 euros net de rémunération. Nous, on fonctionne via le dispositif du CESU. Donc, suite à la déclaration, il va y avoir 23 euros de cotisation sociale et 10 euros de frais de service pour Ernesti. Et comme on fonctionne via le CESU, en fait, après crédit d'impôt, ça ne revient plus qu'à 43 euros pour la famille.
Quant à combien est-ce que vous avez pu d'ores et déjà aider de familles?
Ouais. On a aidé pour l'instant une soixantaine de familles. On a réalisé plus de 1800 nuits. Et voilà, on a été contacté par vraiment plusieurs centaines de familles. On a plus de 1500 étudiants.
Partout, un petit peu partout en
ouais,
France.
Alors pour l'instant, on est précisément... principalement présent à Bordeaux, Paris, mais on commence en fait à avoir des étudiants à Marseille, Cannes, Lyon, Lille, Nantes. L'objectif en fait, c'est d'être présent fin 2019 dans les 10-15 plus grandes villes de France.
Elisabeth,
la France et pourquoi pas vous étendre en Europe?
Bien sûr.
C'est une merveilleuse idée.
Absolument. On pense que Ernesti, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner dans tout le monde occidental. Parce que voilà, c'est hyper important pour nous que, comme je disais, les étudiants ils aient une expérience vraiment juste. En fait, quand ils viennent au domicile, ce n'est pas pour faire quelque chose, c'est vraiment juste pour partager un bon moment et pour voir en fait, le monde.
Ils s'immergent dans la vie de cette
personne. Exactement. Et on apprend des choses incroyables, je le sais, parce que j'ai accompagné quelqu'un pendant aussi plusieurs mois. Et c'est vrai que quand on discute avec quelqu'un qui a 70 ans d'écart, les conceptions par exemple du mariage, de la société, etc., c'est quelque chose qu'on se rend compte que ça n'a rien à voir. Et donc c'est vraiment hyper enrichissant. Et donc c'est voilà.
Ça s'appelle Ernesti. Ernesti. C'est la solution aujourd'hui. Merci Quentin d'être venu nous la présenter.
Merci.
C'est une très belle idée. Il est midi 58. Ne bougez pas, la France bouge. Reviens. Deuxième partie. Restez avec nous dans 10 minutes. On va aider les jeunes étudiants à se loger. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue si vous nous rejoignez en ce mardi dans La France bouge, saison 2. Vous savez peut-être que la rentrée universitaire se profile et vous avez peut-être, vous aussi qui nous écoutez, un fils ou une fille, un frère, une sœur qui doit cette année trouver un logement. Plus d'un million et demi d'étudiants inscrits et encore en cette fin août, plus de 350 000 personnes qui ne savent pas encore où ils vont pouvoir dormir. C'est un vrai casse-tête. Alors, on a eu envie de vous aider et on attend aussi évidemment, Céline, hein, vos
bien
suggestions.
Sûr.
Au téléphone
ou sur Twitter. 3921, on les écoutera avec plaisir, 50 centimes la minute. Twitter avec @ou #Europe 1. Et puis vous pouvez aussi nous écrire l'adresse mail e1-lafrancebouge@europe1.fr.
À mes côtés pour accueillir tous ceux qui ont imaginé ces solutions, imaginé de nouvelles idées, des innovations pour aider les étudiants, il y a toujours Jean Moreau, cofondateur de Phoenix, qui est notre coach aujourd'hui. Et puis... bien sûr, Elisabeth Assayag qui m'accompagne tout au long de cette émission. Face à nous, il y a Alexandre Assal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Womies. Alors ça s'écrit, je vais le préciser, W-H-2-O-M-I-E-S. Vous avez mis au point un système de matching, hein, autrement dit, qui nous permet de fonctionner par affinité et de voir si la personne avec qui on va partager la cuisine, la salle de bain est compatible avec nous. C'est une expérience personnelle qui vous a mis sur la voie?
C'est complètement une expérience personnelle qui nous a mis sur la voie, d'ailleurs, avec la cofondatrice de Womies qui est Lorraine Danet, puisque nous avons vécu donc, pour elle en France en colocation, moi à l'étranger, aux États-Unis notamment, et on s'est rendu compte qu'on se retrouvait autour d'un problème commun qui était le succès d'une colocation ne va pas dépendre uniquement du bien, mais également des gens avec qui on va le partager, ce bien. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé Womies, en donnant la possibilité aux personnes de matcher, en nous donnant quels sont leurs besoins, quel est leur budget, leur personnalité, de pouvoir se définir à travers une centaine de mots-clés et de nous dire un peu plus sur elles pour pouvoir essayer de rencontrer des personnes avec qui justement on peut trouver des atomes crochus.
Et l'expérience personnelle, c'est important dans votre projet parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait énormément de fausses annonces. Hein. Vous étiez à New York, je crois, à l'époque.
Tout à fait.
Du coup, bon, voilà, vous savez les écueils qu'il faut éviter.
Exactement, exactement. On a à ce niveau-là, sur les annonces, on est assez regardant puisqu'on a mis deux procédés en place, un procédé manuel parce qu'il faut quand même vérifier ces annonces. annonces et un procédé technique aussi qui nous permet de filtrer justement toutes les annonces qui peuvent être fausses ou mal intentionnées et ça arrive très souvent donc nous on fait extrêmement attention à ça.
Elisabeth, c'est vrai que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver un logement étudiant, je crois que les chiffres le montrent.
Et complètement, plus d'un étudiant sur 5 n'a pas encore là en ce moment de logement pour la rentrée. Sur les 1,5 million d'étudiants inscrits à l'université, on estime à environ 350 000 ceux qui sont encore à la recherche de la chambre ou du logement à partager. Aujourd'hui, il y a 3 fois moins d'offres que de demandes de logement. Donc il y a un vrai souci. Et chaque année, c'est le même constat alarmant.
Quel est le prix moyen justement pour un logement étudiant aujourd'hui ?
Alors déjà, la région parisienne représente près de 30% des recherches et Paris, c'est la ville, on s'en doute, dans laquelle le coût de la vie étudiante est le plus élevé avec 1288 euros de dépenses par mois en moyenne pour un étudiant, une augmentation de près de 5% par rapport à l'année dernière. Les 6 villes qui suivent sont toutes des communes situées aussi en Île-de-France. Vous avez Nanterre, Créteil, Guyancourt, Champs-sur-Marne, Saint-Denis, et Cergy-Pontoise en 7e position avec un coût mensuel moyen de 1020 euros. En région, les prix tombent, 542 euros à Bordeaux, 590 euros à Nice ou encore 472 euros à Toulouse. La chambre chez l'habitant ou en colocation reste la solution la plus économique.
Alors justement, Alexandre Assal, vous vous êtes lancé en janvier 2018. Comment ça marche ? Je suis étudiante, je suis en train de cuisiner, j'entends parler de votre site Womiz, j'ai envie tout de suite de me mettre sur le site.
De courir sur mon téléphone.
Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je remplisse ?
Alors, il faut tout simplement télécharger l'application donc, qui est disponible pour tous les téléphones aujourd'hui, tous smartphones. Très rapidement, on va vous demander de vous définir. On a essayé de mettre un maximum d'innovation aussi et de créer une expérience utilisateur qui soit vraiment novatrice. Et donc, on va interagir avec un chatbot qui s'appelle Chandler, petite référence à Friends, qui va permettre de justement définir les caractères dont je vous parlais au début. Donc, c'est-à-dire son budget, sa destination, le temps pour lequel on veut chercher une colocation et après définir toute sa personnalité, ses centres d'intérêt, etc. etc. Très rapidement, on arrive sur une double face, matching, donc où on va pouvoir, surtout pour les étudiants, vu qu'on parle principalement des étudiants aujourd'hui, sélectionner son école, notamment, donc pouvoir rencontrer des gens en amont, des personnes de son école. On a 79 nationalités représentées sur l'application, donc voilà, ça peut aider aussi, et ça peut faciliter l'arrivée dans une ville pour des étrangers. Et on va pouvoir très simplement matcher avec des personnes, communiquer, échanger avec elles, essayer de créer des rencontres pertinentes avec des personnes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées dans notre vie de tous les jours, et en même temps, pouvoir trouver le logement, parce qu'on propose les deux. Donc quand on est en situation d'urgence comme les 350 000 étudiants encore en recherche, parfois on n'a pas le temps de matcher avec ces personnes-là, on va pouvoir aller directement vers la partie logement.
Jean, notre coach.
Vous êtes un peu le Tinder de la coloc. J'imagine que votre gamme de services va s'étendre. Qu'est-ce que vous proposez au-delà de la recherche du bien ? Qu'est-ce que vous avez en tête pour faire évoluer la gamme de services derrière et comment aider davantage encore les étudiants ?
Ouais, c'est tout le projet Womiz. Aujourd'hui, oui, on parle de nous comme le Tinder de la coloc et c'est vrai que ça a été une volonté de notre part d'avoir une interface qui soit facile à utiliser et connue de tous pour que ces étudiants et jeunes actifs, aujourd'hui on a une moyenne d'âge sur l'application de 26 ans, donc c'est pas uniquement que des étudiants, puissent trouver plus facilement et avoir un parcours facile dans l'application. Le but pour nous maintenant, c'est d'aller encore plus loin dans notre démarche. On permet de trouver le colocataire, de trouver le logement. La troisième étape, c'est comment est-ce qu'on va accéder à ce logement. Et nous, on veut aider les étudiants, les jeunes actifs à pouvoir y accéder en les aidant à construire, à constituer
leur dossier.
Dans le dossier,
par exemple.
Exactement. Il y a beaucoup de difficultés à constituer un dossier, surtout quand on est étranger ou qu'on est étudiant, c'est la première fois qu'on doit le faire. Donc, on veut accompagner là-dessus et après, offrir toute une palette de services à ces étudiants à travers des produits comme de l'assurance habitation. On ne sait pas comment y souscrire. Bah, très bien, nous, on va un peu prendre les personnes par la main et les aider là-dedans. Et ça, c'est l'avenir de Womiz.
Vous avez, je crois, déjà 65 000 utilisateurs,
ouais.
C'est ça
ouais.
Vous imaginez, dans l'année qui vient, en séduire combien ?
On vise un peu plus de 200 000 nouveaux utilisateurs. Et le but est de continuer à nous étendre. Alors on a lancé à Paris et Londres dès le début. Londres qui est un marché beaucoup plus mature, beaucoup plus gros, qui représente 40%. La colocation là-bas représente 40% de toutes les nouvelles locations. À Paris, on est à 7-8%, donc on est très très en retard. C'est ce qui fait aussi que les alternatives doivent s'étendre. Et, ouais, et que la colocation doit un peu changer son image de l'auberge espagnole et être vue vraiment comme une alternative qui soit durable, pérenne et aussi sécurisante pour le propriétaire.
Vos concurrents réagissent comment à votre arrivée sur le marché ? Il y en a déjà qui font à peu près la même chose que vous ?
Oui, bien sûr, il y en a. C'est un sujet, la colocation et même le logement, c'est un sujet... sur lequel il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Nous, notre différenciation, justement, de par notre démarche, de par l'innovation qu'on a envie d'apporter, a permis à d'autres acteurs d'émerger. On a vu aussi que ça a poussé d'autres acteurs à l'innovation. C'est aussi le but, c'est de permettre d'apporter un maximum de solutions aux utilisateurs. Et tant qu'on est suivi sur nos innovations, ça me convient.
Jean Moreau.
Peut-être juste un mot sur l'origine du nom, Houmiz, ça vient d'où et ça veut dire quoi ?
Ah, c'est une contraction de roommate, on appelle ça les roomies, petite référence à mon expérience à New York, et le who,
roommate,
WHO,
qui
c'est ce qu'on ramène nous, c'est l'humain.
En anglais.
Ouais, roommate qui signifie colocataire, et le who, donc le qui, c'est vraiment la spécificité de Houmiz, donc roommate.
Donc qui sera votre colocataire ? Voilà,
exactement, Houmiz.
Votre parc, vous savez l'évaluer aujourd'hui ? Combien de logements vous pouvez aider aujourd'hui à remplir finalement ?
À l'heure
Est-ce
actuelle...
que c'est quelque chose... vous travaillez sur ces statistiques... Oh, je ne vais pas y arriver, statistiques-là, et aujourd'hui, ce n'est pas évident.
Oui, et on remarque qu'on est sur un marché quand même extrêmement tendu, avec trois villes qui se détachent très largement du reste, Paris, Lyon, Bordeaux. Et aujourd'hui, on a 2700 biens, à l'heure actuelle, référencés sur la plateforme. Le but, bien sûr, c'est de propulser ce chiffre-là pour pouvoir aider un maximum de personnes. Et dans le même temps, c'est de pouvoir s'ouvrir à terme, non pas uniquement rester sur la colocation, mais on sait qu'il y a d'autres alternatives et nous, on a envie de les pousser et d'y adhérer. Les résidences étudiantes, les espaces de co-living, aujourd'hui, on a envie de travailler avec tous ces acteurs-là pour pouvoir permettre aux étudiants, aux jeunes actifs, d'accéder à un maximum de logements.
Vous restez avec nous, on va
avec
voir
plaisir.
Qu'il y a d'autres initiatives et on attend aussi les vôtres. Hein. Si vous êtes derrière votre poste, vous n'hésitez pas, vous décrochez votre téléphone, évidemment.
Oui,
Céline.
39, 21, 50 centimes la minute. Twitter, ça marche très bien aussi. @Europe 1, on a déjà des messages et vous pouvez également nous écrire e1-lafrancebouge@europe1.fr. Vous êtes sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin, il est 13h18.
Et pourquoi pas créer tiens, de nouveaux lieux c'est ce que est en train d'imaginer la ville de Bordeaux pour faire face au flot d'étudiants. A tout de suite.
La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et on parle, Raphaël, du parcours du combattant, celui de trouver un logement étudiant. Racontez-nous vos expériences sur Twitter, notamment avec le hashtag Europe 1.
Puisqu'il n'y a plus de place dans les villes ou dans les cités U, eh bien, les villes justement se creusent les méninges pour en imaginer de nouvelles de places. Bonjour Mathieu Rouvert.
Bonjour.
Vous êtes conseiller municipal à Bordeaux, justement, on en parlait, Bordeaux-Ville en tension hein, sur cette question du logement étudiant. Et pour cette rentrée, je crois que vous êtes particulièrement inquiet parce que vous avez beaucoup d'étudiants qui sont encore sur le carreau. Pas d'argent pour se loger, pas de lieu pour être hébergé. Vous avez du coup commencé à imaginer de nouveaux espaces. Comment vous est venue cette idée ? Parce que c'était un constat que vous faisiez ?
Oui, effectivement, à Bordeaux et sur l'agglomération, c'est 102 000 étudiants et seulement 8,5% d'entre eux logés dans des résidences Crous. Donc à Bordeaux, on a énormément d'étudiants sans logement. Alors parfois, ils trouvent des solutions, des copains qui acceptent de les héberger, mais ça ne peut être que des solutions provisoires. Et dans les cas encore plus difficiles, malheureusement, on a des étudiants qui sont dans des tentes à côté du campus. En France au XXIe siècle. Donc ça nous a posé quand même un certain nombre de problèmes.
Oui,
par ailleurs, sur l'agglomération, c'est le cas d'ailleurs de beaucoup d'agglomérations, on a un foncier de plus en plus rare. Donc si vous voulez, on a
donc,
une
pas
tension...
d'espace, pas vraiment d'espace pour construire éventuellement des résidences étudiantes.
Pas énormément. Donc on cherche des solutions alternatives. Parfois, il y a des espaces temporaires. Et par exemple, une des idées qu'on a mis sur la table, c'est l'installation de tiny house, ces micro-maisons qui, pour un peu moins de 19 mètres carrés, permettrait d'offrir des solutions temporaires pour un certain nombre de jeunes. En tout cas, on est bien certain que ça sera toujours mieux que des tentes. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a un vrai confort sur ces micro-maisons. Donc on travaille là-dessus. La région propose la réhabilitation d'un paquebot, par exemple.
On va en parler. Donc, je voudrais qu'on s'arrête sur les tiny houses, justement. Mmh. C'est quelque chose qui vient des États-Unis, notamment, oui. Hein, qui a été développé, y compris sur les campus. Elles viennent où, ces maisons, justement, puisqu'on n'a pas de foncier libre? Vous les mettez où? Sur le campus universitaire?
Oui, alors parfois, on a du foncier libre temporairement. C'est-à-dire qu'avant...
Mais qui ne peut pas être construit,
voilà,
c'est ça.
Qui ne peut pas être tout de suite construit, parce que, par exemple, on veut édifier des logements en dur, mais pendant le temps des études, avant les travaux, on peut s'écouler parfois un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Donc, utilisons ce foncier pour mettre ces maisons qui, par définition, sont déplaçables. Donc, effectivement, l'investissement est consenti une fois, mais après, on peut les utiliser, ces maisons, pour les mettre ailleurs et de telle manière à ce que, finalement, eh bien, on trouve des solutions immédiates pour les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui.
Combien de tiny house vous avez aujourd'hui sur Bordeaux ?
Eh bien, malheureusement, sur Bordeaux, il n'y en a pas encore. On est sur un projet de 200 tiny house. On s'inspire d'un projet qui est porté par le Crous sur Pau. Alors, ils ont démarré simplement sur 7 tiny house, mais ça fonctionne. Donc l'idée, c'est de pousser aussi la puissance publique à réfléchir à des nouvelles solutions. C'est parfois un peu compliqué de bousculer les élus qui sont dans des schémas un peu traditionnels, ce qu'on peut comprendre.
Mais vous dites ça en étant élu. Hein.
Je dis ça en étant élu, mais je dis on a intérêt un peu à agiter tout ça parce que le problème et la crise est profonde. Donc il faut trouver d'autres solutions. Les tiny house en sont un.
Donc, ça signifie que les étudiants bordelais ou qui viennent faire leurs études à Bordeaux pourront éventuellement en disposer dans les mois, les années qui viennent.
Oui,
Est-ce que vous avez des dates ?
Si tout va bien, si le projet est mené à bien, à la prochaine rentrée, on devrait avoir ces tiny house sur le campus de Bordeaux.
Qu'en pense notre coach, Jean Moreau ?
Je trouve ça top que la puissance publique prenne l'initiative de faire des logements comme ça atypiques et innovants et qui changent de la norme. Donc, par exemple, je sais que vous vouliez parler du paquebot.
On va y venir, oui, bien sûr.
C'est un projet emblématique qui devrait être dupliqué un peu partout. Et je trouve que ça très bien que les élus s'y mettent.
On ne peut pas, de toute façon, accepter aujourd'hui la situation qui est la nôtre. Vous savez, on a, quand je parlais de cas dramatique, on a des étudiants qui arrivent à trouver un logement, mais qui ont mis tellement tout leur argent dans le loyer, qu'ils ont des difficultés à se nourrir. Certains, on les a rencontrés à l'occasion des maraudes faites par les associations, c'est-à-dire, vous savez, ces associations qui vont essayer d'aider ceux qui n'ont pas les moyens de manger et qu'on retrouve à la fin, à la fermeture des sandwicheries. C'est des étudiants qui essayent de suivre des études. Et ce qui explique aussi, il faut le dire, qu'un certain nombre de personnes, des classes populaires, des classes moyennes, n'ont pas accès aux études supérieures parce qu'un certain nombre d'obstacles, et maintenant les logements, viennent se dresser de devant eux. Donc, il faut trouver des solutions.
Comment est-ce que vous allez faire pour distribuer ces tiny house? Quels sont est-ce qu'il y a des critères de sélection pour la rentrée prochaine? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette problématique-là?
Nous, on aimerait que le Crous soit l'opérateur. Et le Crous, effectivement, c'est en fonction de critères très spécifiques, mais établis, qu'il attribue des logements. En fait, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est, comme je vous le disais, seulement 8,5% des étudiants logés par le Crous. Aujourd'hui, il faut augmenter l'offre parce qu'il y a énormément d'étudiants éligibles. Et donc, il y aura des critères, évidemment, publics pour pouvoir en bénéficier.
Elisabeth, il y a une solution dont on n'a pas parlé, mais qui existe et qui peut valoir aussi, peut-être pour les étudiants dans la région bordelaise, c'est les campus verts.
Mais oui, imaginez vivre en pleine campagne à seulement quelques kilomètres de la fac. Eh bien, c'est possible. C'est ce que proposent des agriculteurs qui ont aménagé une partie de leur ferme en logement étudiant. Ça s'appelle les campus verts. Ils sont bien implantés dans les Hauts-de-France, mais ils fleurissent aussi en Île-de-France et en Bretagne. Et pourquoi pas une idée pour votre région?
Absolument.
Et puis vous travaillez, vous l'avez dit, sur cette idée de parc flottant, installer un paquebot, c'est-à-dire une sorte d'hôtel flottant, parce que là encore, l'espace manque, donc on le trouve, on le cherche aux endroits où il existe, c'est-à-dire sur l'eau.
Oui, c'est un projet porté par la région qui a d'ores et déjà lancé un appel à projet pour trouver l'opérateur qui accepterait de réhabiliter en quelque sorte un paquebot pour y faire...
C'est vertueux ça aussi, oui, parce que au lieu d'envoyer les paquebots à la casse, on les réutilise.
Exactement. Et la région est dans un phénomène d'expérimentation, c'est-à-dire que l'idée, c'est de rénover le paquebot pour faire une cinquantaine de logements. Et si ça fonctionne, eh bien, on va aller récupérer d'autres paquebots. Là encore, effectivement, le manque de foncier et notre obligation, l'obligation qui est faite à la puissance publique de trouver des solutions alternatives, finalement, nous stimule et nous donne envie de tester ces opérations.
Jean Moreau, le coach.
Je rebondis juste sur le fait qu'il y a une autre dimension dans ce projet, c'est que c'est l'économie circulaire. Un paquebot qui était en fin de vie, qui aurait été démantelé, recyclé, incinéré, enfoui, et là, réhabilité. Donc, ça me parle en tant que fondateur de Phoenix. Donc, c'est très bien. Et plus il y aura de projets comme ça, plus ça sera...
Oui, les sujets sur la résilience viennent aussi à nous. Et on comprend bien qu'on a un enjeu en matière d'économie circulaire. On est au carrefour d'un certain nombre de problématiques. Les problématiques de la résilience, effectivement, le recyclage, la récupération, le logement étudiant, des nouvelles manières de se loger aussi. Le mouvement des tiny house, ça nous interroge. Est-ce qu'on a encore besoin de autant de places? Évidemment, pour habiter quand on a de plus en plus d'habitants. Donc tout ça, finalement, est extrêmement intéressant, extrêmement stimulant pour essayer de trouver des nouvelles solutions.
Et puis peut-être que les auditeurs d'Europe 1 ont des solutions à nous proposer. On les attend. Évidemment, ils peuvent venir témoigner, Céline.
Oui, au 39-21, vous nous appelez. C'est 50 centimes la minute. Et puis nous écrire également sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Bel après-midi à tous. Il est 13h28.
Europe 1.
Et pourquoi ne pas faire tiens à la fois de la colocation et de l'insertion? Vous allez voir que c'est possible grâce à la fève.
La France bouge, vous informe chaque après-midi avec Raphaël Duchemin. Et aujourd'hui, Raphaël, on s'intéresse au logement étudiant, difficile à trouver.
Oh oui, difficile à trouver. Hein. Elisabeth donnait les chiffres tout à l'heure. Plus de 350 000
qui sont toujours à la recherche,
attente de logement. Donc c'est vraiment le moment de les aider. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, vous nous les communiquez sur Twitter ou au 3921. Allez-y, c'est maintenant qu'il faut appeler pour être avec nous en direct tout à l'heure. Et alors quand on est une association d'étudiants, forcément on connaît tous ces dossiers, tous ces problèmes par cœur. C'est grâce à cette maîtrise justement que la FEV a pu imaginer un programme, entre autres. Bonjour Kira Boukalfa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable nationale logement de la FEV. Je crois que ça fait 10 ans maintenant que vous planchez au sein de l'association sur ces problématiques et vous avez développé ce qu'on appelle plus particulièrement les CAPS. On va expliquer ce que c'est. C'est un programme de colocation à projet solidaire, c'est ça?
Tout à fait, Raphaël. Donc, les CAPS sont une manière d'habiter pour des étudiants qui souhaitent s'engager dans les quartiers populaires. Il s'agit de faire une proposition aux jeunes qui ont envie de s'investir auprès d'habitants des quartiers, de pouvoir habiter et en même temps d'être bénévole auprès de ces habitants.
Alors CAPS, c'est K-A-P-S, je ne l'ai pas dit. Et c'est en Belgique, je crois, que vous êtes allé chercher l'idée, parce que ça existe là-bas d'une manière un peu différente.
Exactement. Donc à Louvain-la-Neuve, qui est un campus étudiant, un campus ville, donc dans les années 80, ont été développées des cotes à projet. Donc cotes voulant dire maison, quoi. Des cotes à projet qui permettaient donc par entité de 10 étudiants de pouvoir et habiter et monter des propositions thématiques vis-à-vis des habitants et des fois d'autres étudiants, comme des questions de solidarité internationale, mais des choses peut-être plus basiques, de gym, de cuisiner ensemble, l'idée étant de faire du lien.
Et alors, comment est-ce que vous avez transposé l'idée, le projet belge, ici en France? Est-ce que vous avez gardé les mêmes codes? Est-ce que vous avez fait évoluer le concept?
Il a évolué. Donc, cet essaimage a été enrichi avec l'idée de comment mettre les jeunes au centre aussi de la société et mettre l'engagement des jeunes comme une proposition motrice pour les territoires et de permettre donc à ces jeunes d'habiter les quartiers populaires. Quand en Belgique, on était sur des campus qui étaient...
Du vivre ensemble.
Exactement.
Là, on est davantage dans un projet. On doit s'impliquer finalement. En tout cas, vous allez chercher des jeunes qui ont envie de s'impliquer.
Exactement.
Et vous les aider à trouver un logement. On ne peut pas dire que c'est du donnant-donnant finalement. Hein. Mais vous êtes quand même allé voir les bailleurs sociaux pour leur dire, voilà, vous avez un parc immobilier. Il est important ce parc immobilier et nos jeunes qui sont étudiants ne peuvent pas forcément avoir accès à ce parc. Comment on fait pour y arriver?
Alors c'est vrai que l'effet secondaire de ce projet, qui est d'abord l'engagement des jeunes auprès des habitants, est de créer une offre abordable. Donc puisque en travaillant en priorité avec les bailleurs sociaux, on trouve et on dégage une offre qui est temporaire pour les jeunes, à des prix qui sont accessibles et qui permettent donc aux jeunes et d'habiter et de faire.
Oui, parce qu'on est sur des habitations à loyer modéré.
Exactement.
Donc on est forcément dans des choses que peuvent s'offrir en théorie les jeunes, voire en colocation, hein, puisque c'est le cas des CAPS, je crois.
Exactement, en particulier dans les métropoles tendues telles que vous les énonciez, donc que ce soit Lyon, Bordeaux, Paris, donc ça permet donc de faire habiter des jeunes aussi qui peuvent être en situation modeste et pouvoir s'engager auprès des habitants. Mais notre premier critère, c'est quand même l'engagement.
Ouais, vous dites on refuse le terme d'une action égale un loyer. Ça vous permet malgré tout d'avoir des ensembles immobiliers, de vous ouvrir finalement des portes qui seraient peut-être restées fermées avant s'il n'y avait pas effectivement cette démarche d'engagement, dire voilà, vous nous donnez des logements, mais nous, on s'engage, on est étudiants, on s'engage à faire vivre le quartier.
Exactement. La demande des bailleurs est assez forte aussi d'avoir une pluralité de jeunesse, d'enrichir le lien social, d'enrichir l'action des habitants au sein de leur propre quartier, dans leur propre destinée, et d'avoir un public étudiant qui va côtoyer d'autres publics. C'est vraiment un point fort dans les quartiers. La Fève est présente quand même sur 350 quartiers populaires, et ça permet donc de favoriser, alors c'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça
Bien
permet
sûr.
De favoriser de manière un peu structurelle le vivre ensemble.
Que dit notre coach de cette initiative de la Fève?
La meilleure preuve que ça marche, c'est les chiffres que j'ai lus, puisque vous avez un logement à Pessac, près de Bordeaux. Vous avez une quarantaine de places disponibles et vous avez reçu 120 demandes, donc 3 fois plus de demandes que d'offres. Donc ça prouve que ça répond à un besoin, que c'est dans l'air du temps et qu'il n'y a plus qu'à démultiplier pour avoir un impact à grande échelle.
C'est vraiment l'idée. Aujourd'hui, on est sur environ un peu plus de 700 places donc, de colocation en France, réparties sur une cinquantaine de points sur le territoire. Et l'idée, c'est de pouvoir doubler la mise parce qu'on... En toute modestie, c'est un vecteur et un outil qui permet qui est un démonstrateur de vivre ensemble et d'aller plus loin aussi sur des actions concrètes
Bien sûr.
Qui vont favoriser le mélange et la mixité. Donc il y a cette idée. Aujourd'hui, le commissariat général à l'équité des territoires porté par le gouvernement nous soutient dans cette démarche. Et on souhaite donc doubler la mise, faire cette proposition aux étudiants qui vivent une expérience, mais qui vivent deux expériences en fait. Celle, pour beaucoup, d'un premier logement, de vivre une expérience collective d'habiter, et aussi de vivre une expérience de faire avec les personnes et d'aller vers. Et donc, bien sûr, là, la Fève accompagne ces jeunes dans les aspects de formation et des actions solidaires qui sont faites avec les personnes. Et
Elisabeth, il y a autre chose aussi comme solution, finalement, pour les étudiants, hein, parce qu'on est en train d'essayer de toutes les passer en revue, c'est qu'on peut aller habiter, ça se développe de plus en plus, chez une personne âgée.
Oui, le concept se développe de plus en plus. Alors, ça peut paraître surprenant, mais certains étudiants l'ont déjà adopté. C'est une idée qui nous vient d'Espagne. En Espagne, c'est assez répandu depuis de nombreuses années. L'idée, c'est de partager le logement d'une personne âgée, d'un senior, en échange de moments partagés ensemble. Il y a par exemple l'association Binôme 21 à Dijon qui l'a mis en place. Eux, ça fait depuis 2010 tout de même. C'est une association qui propose des colocations entre les étudiants et les retraités. Le concept se développe un peu partout en France. C'est une façon de faire des économies quand on était étudiant, tout en partageant des moments avec des personnes qui ont 50 ans, 60 ans de plus qu'elles. Vous avez aussi Famille DAC ou encore le Crous Paris qui s'est mis sur ce créneau qui propose des cohabitations intergénérationnelles.
Kéra, on n'a pas parlé prix. Ces logements que vous trouvez aux étudiants, ça leur coûte combien?
Ça leur coûte en moyenne 250 € par mois.
Oui, quasiment la moitié.
Quand on voit les tarifs annoncés par Elisabeth, effectivement, ça fait une sacrée économie.
Alors avec certaines disparités en fonction des territoires, bien sûr, mais bon, on excède quand même rarement les 400 € par mois par place de colocation sur lesquelles on peut après, bien sûr, défalquer l'APL, etc.
On reste ensemble et on continue à parler logement étudiant aujourd'hui sur Europe 1.
Une très belle après-midi, il est 13h17.
Europe 1.
13h37.
Comment faites-vous pour trouver votre logement? Si vous êtes en recherche, venez hein, vous aussi témoigner. Vous avez la parole, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1.
La France bouge avec Raphaël Duchemin jusqu'à 14h. On parle, Raphaël, des solutions pour trouver un logement étudiant et ce n'est pas simple.
Oui, si vous en avez, n'hésitez pas, vous nous les communiquez. Vous êtes les bienvenus au 3921 et sur Twitter, hashtag Europe 1. On a d'ailleurs Déjà, quelques réactions, oui, je crois, Céline.
Oui, on a Olivier qui nous écrit que pour sa fille qui rentre en première année à l'UTC de Compiègne, il a trouvé un studio via l'application locservice_.fr. Grâce à différents critères personnalisables, tout était réglé, nous dit-il, en 7 jours avec le propriétaire. Donc, il est très content. Et puis, Thibault, lui, nous dit qu'il y a beaucoup de logements vides parce que trop cher. Les bailleurs gestionnaires du parc public refusent une plateforme interactive fiscalisée à la source par les impôts pour les chambres momentanément libres.
Alors, on va peut-être lui répondre à Thibault. Si quelqu'un autour de la table a la réponse, nous sommes avec Mathieu Rouvert, conseiller municipal de Bordeaux, Alexandre Assal, cofondateur de Woomies, et Kera Boukralfa, responsable logement national à la FEV. Je crois que Mathieu, vous aviez un début de réponse pour Thibault.
Oui, alors, il y a plusieurs choses dans sa question. Ce qui est sûr, c'est que les bailleurs n'ont pas la main sur le régime fiscal. En revanche, ils ne sont pas en retard. Beaucoup cherchent des innovations. Par exemple, on constate que le parc social est vieillissant et on a des associations qui acceptent en collaboration avec les bailleurs de mettre en relation les personnes âgées, comme vous en parliez tout à l'heure, avec des étudiants. Et c'est plutôt gagnant-gagnant, ça marche bien. À Bordeaux, on a une association qui s'appelle Vivre Avec et qui fonctionne très bien dans ce sens-là et qui, forcément, et vous le disiez très justement, ça aide énormément d'étudiants et puis ça recrée un lien intergénérationnel extrêmement intéressant pour des personnes âgées qui ne voyaient plus personne depuis longtemps, qui étaient en situation d'isolement. Donc ça marche bien.
Alors, je crois que justement, hein, nous sommes en ligne avec Migueline qui nous appelle du 95 et qui justement partage son logement avec des étudiants. Bonjour Migueline.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est une expérience que vous faites depuis longtemps, vous, partagez justement avec des étudiants ?
Oui, ça fait 4 ans.
4 ans ?
Oui. Alors, et écoutez, c'est vraiment quelque chose de très agréable. Alors, on va dire que moi, je suis une jeune retraitée. Souvent, les étudiants ont affaire à des personnes plutôt plus âgées. Donc, on leur demande des services peut-être un tout petit peu plus importants. Moi, en ce qui me concerne, c'est surtout de l'échange. Ils ont remplacé mes enfants qui sont partis. Donc, ça, c'est très agréable. J'ai deux jeunes filles en ce moment. J'ai une ukrainienne, Olga.
Oui.
Et puis, j'ai Faustine qui fait des études de journalisme. Alors, Faustine est spécialisée plutôt dans le foot, donc elle a des tas d'échanges au niveau du foot avec mon mari.
J'en parlerai au service sport.
Voilà. Et puis Olga, c'est la découverte d'une autre culture. De temps en temps, elle nous a gentiment proposé, elle nous a fait des repas ukrainiens, enfin des choses comme ça. Puis, en dehors de ça, si vous voulez, elles vivent leur vie. Hein. C'est vraiment l'échange entre deux générations. Bon, voilà, c'est très agréable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez différents niveaux. Hein. Moi, je suis passée par une association catholique qui s'appelle Ensemble Deux Générations. Et en fait, cette association propose trois niveaux de système de location. Vous avez l'échange complet où il y a pas mal de services à donner. Dans ce cas-là, l'étudiant ne paye rien du tout. Oui. Après, vous avez juste des tout petits services, un petit peu de service, un petit peu plus régulier, avec une présence le soir, etc. À ce moment-là,
partager les dîners, par exemple, ou aller chercher quelques courses.
Voilà, exactement. Et le troisième niveau, qui est mon niveau à moi, où je ne demande pas grand-chose, il paye un loyer, mais qui est en dessous d'un loyer normal, si vous voulez. Je vous demande, quand je suis pas là, d'aller me chercher le courrier.
C'est quoi? C'est une centaine d'euros, Migueline?
Non, c'est, alors, vous avez trois niveaux. Vous avez zéro, ils payent rien. Vous avez un niveau intermédiaire qui doit être autour de 150 euros, je crois. Oui. Et moi, comme c'est un véritable appartement avec salle de bain, cuisine, ils ont la télévision, l'accès à Internet, etc., elles payent chacune 300 euros de loyer. Donc ça fait 300 euros chacune et elles ont droit aux APL. Voilà.
Avec effectivement les APL. Merci beaucoup Migueline de votre témoignage ce midi sur Europe 1 dans la France Bouge. Kera, on voit que c'est important hein, effectivement d'avoir toutes ces solutions finalement pour les étudiants parce que chacun peut piocher ce qu'il a envie finalement.
Oui, l'essentiel étant que d'habiter ensemble c'est de s'entendre. C'est de pouvoir émettre des règles communes. Nous, à la FEV, donc, dans les colocations à projet solidaire, nous accompagnons les jeunes à cette culture du vivre ensemble à l'intérieur du logement aussi. Comment on vit en même temps qu'on travaille ou qu'on fait ses études, comment on fait la fête, mais des fois on arrête de faire la fête pour laisser un peu...
Oui, mettre des règles, effectivement.
Exactement. Donc ces règles-là sont importantes. Aussi, la question de la solidarité. Donc là, c'est vrai que Migline explique aussi comment la présence de jeunes auprès d'elle permet de pallier aussi des besoins relationnels, de discussions, d'ouverture. À la FEV, les colocations à projets solidaires vont travailler auprès d'habitants sur des projets très divers qui vont concerner le développement durable, la solidarité ou encore l'éducation. Donc, qui vont aller du jardin partagé à la question de justement auprès des personnes âgées, comment on va travailler sur les ateliers lecture avec elles et aller vers.
Alexandre, vous partagez évidemment, je suppose, que vient de dire Chiara, vous êtes spécialiste de la colocation chez Womis.
Spécialiste du matching surtout et de faire en sorte que les personnes puissent former des colocations en ayant justement, comme vous le disiez, justement une façon de vivre qui va pouvoir être créer quelque chose de pertinent et en tout cas leur permettre d'avoir une expérience qui soit la bonne. Je pense aussi que ça montre aussi que la colocation, c'est une solution qui reste économique et que pour les étudiants, c'est très compliqué de se loger. Donc ça apporte une belle réponse aussi au logement plus traditionnel.
Jean, notre coach.
Moi, je fais un tout petit parallèle avec ce qu'on vit dans les startups. C'est un peu pareil aussi des colocations d'entreprise. Quand on est une startup, on n'a pas les moyens de prendre un vrai bail 3, 6, 9 ans. Déposer une caution, donc on est en coloc entre entreprises et puis ça va, ça vient, celles qui grossissent s'en vont, celles qui sont plus petites rentrent, donc c'est un concept qui dépasse l'étudiant.
Complètement, nous on est en colocation.
Et les étudiants ne le savent pas forcément, Elisabeth, mais il y a ce qu'on appelle la garantie visale, je suppose que évidemment tout le monde autour de la table connaît. Pour les étudiants, vous nous rappelez ce que c'est ?
C'est la caution gratuite de l'Action Logement, elle est ouverte à tous, elle permet elle couvre les paiements des loyers, elle peut remplacer la caution qui est habituellement réclamée à un parent, elle permet aussi en cas de défaillance du paiement de pouvoir prendre en charge tous les frais que l'étudiant ne peut pas couvrir. Ça s'appelle donc la garantie visale.
On va vous donner un dernier message. Je voudrais juste préciser, je crois que vous ouvrez au Havre, notamment à Rouen, c'est ça, avec la FEV, les fameuses CAPS.
Exactement. Donc pour la rentrée, on ouvre donc des nouvelles places à Villejuif, donc en Île-de-France, à Rouen, au Havre, et aussi on inaugure des nouvelles actions autour de l'accueil de jeunes réfugiés au sein de ces CAPS qui vont vivre une expérience aussi d'intégration et d'accompagnement par leurs pairs nationaux sur leur parcours d'insertion et de vie étudiante.
Oui, ça marche pour les étudiants, pour les jeunes actifs et aussi pour les jeunes qui arrivent dans notre pays. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour parler logement. Merci. Je voudrais qu'on termine avec un message qui nous a été envoyé au 3921.
Oui, c'est Georges qui nous a appelé. Il a 80 ans, il habite à Angers. Il nous dit qu'il loue une chambre de son logement à un étudiant, qu'il recommande fortement ce genre de dispositif. Donc voilà, l'appel est lancé. Pour avoir ces coordonnées, vous nous appelez 3921, vous nous écrivez également sur notre adresse mail qui est, je la retrouve, e-lafrancebouge@europe1.fr. On vous transmettra les coordonnées de Georges avec plaisir.
Merci à tous d'avoir été avec nous pour parler logement aujourd'hui sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h47.
Ils ont révolutionné, et le mot est faible, le marché de la glace en à peine 3 ans, M-K-Pop et ses bâtonnets arrivent, c'est l'entreprise qui va bien sur Europe 1.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Un petit peu de gourmandise qui viennent d'arriver dans le studio, Raphaël Duchemin.
Et oui, parce que c'est l'heure de l'entreprise qui va bien, vous le savez, chaque jour on retrouve une entreprise qui a le vent en poupe avec ces températures estivales, voilà qui va probablement vous donner envie de faire plus ample connaissance avec M-K-Pop. Bonjour Guillaume Bagville.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le président d'M-K-Pop dont l'histoire a seulement commencé il y a 3 ans et demi. Je crois que c'est à New York, en voyant passer un triporteur qu'avec votre femme, vous avez eu le déclic. Votre avenir, c'est la glace.
C'est un peu ça, c'est un peu une histoire folle qui a démarré effectivement à New York, où on a découvert ce produit, le bâtonnet glacé, qui est pourtant un produit assez simple. Mais en fait, on avait vraiment l'impression de croquer dans du fruit. Et c'est, on est parti tout de suite dans un petit délire de vacances. Et puis en fait, on a travaillé le sujet en revenant en France. Et on s'est dit, en fait, avec Emeline, donc Emeline Lallemand, mon associée, et on est en couple aussi dans la vie.
Oui, j'ai dit femme, ouais. Compagne.
Ça passe aussi. On s'est dit, en fait, c'est ça qu'on va faire. Et on s'est lancé 6 mois après, en fait.
Donc vous rentrez, vous lâchez tout.
On est rentré.
Vous n'étiez pas du tout là-dedans, vous étiez dans le conseil.
Tout à fait, on a travaillé dans le conseil sur Paris et puis sur Marseille après. Mais effectivement, on rentre de vacances en août. On se dit, bon, on travaille un peu le sujet, on se donne jusqu'à décembre. Et en fait, en octobre, on est allé voir notre patron et on lui a dit, mais en fait, est-ce qu'on peut partir? On a envie de monter notre société. Et il nous a lâchés.
C'est un sacré grand écart entre le monde du conseil et la pâtisserie. Vous avez dû tout apprendre. L'idée, c'était d'aller justement proposer ce produit extrêmement naturel qui, finalement, nous donne l'impression, et je crois que Céline est en train d'en goûter
une démonstration.
croquer dans un fruit. C'était
pêche, vanille, verveine, c'est trop bon.
C'est ça, exactement. Alors, croquer dans un fruit, parce qu'en fait, tout le concept en fait, qu'il y a autour, on travaille essentiellement des produits français, locaux essentiellement, donc des fruits frais. C'est pas de la purée de fruits qu'on travaille, c'est vraiment des fruits frais qu'on reçoit, qu'on travaille en direct producteur pour quasiment la plupart. Alors on fait quelques exceptions avec la framboise qui vient de Corrèze, avec le citron qui vient en bio d'Italie, mais le reste on est vraiment sur des producteurs de PACA.
Les tests au départ, c'est dans votre cuisine, c'est ça?
C'est exactement ça, on n'a pas démarré
pas
dans un garage.
Toujours très concluant, mais si j'ai bien compris. Hein.
Non, bah, y a eu des tests au début, voilà, on était un peu partagé avec Emeline, moi j'aimais bien, elle trouvait ça pas bien du tout, mais globalement, ouais, il y a eu des tests, il y a eu pas mal de tests avant de trouver les bonnes recettes. Il y a eu pas mal de tests autour de notre entourage. Il y a un chef qui avait goûté, Michel Portos, qui avait goûté nos produits au tout début et qui nous avait un peu coaché aussi sur les tendances sur lesquelles il fallait aller et ce vers quoi il ne fallait pas trop aller. On a eu des petits coachs au début qui nous ont pas mal aidé là-dedans.
Et alors, quelle est la première saveur en 2016 quand tout démarre?
La première saveur en 2016, alors je sais pas s'il y en a eu une, mais il y en a quelques-unes en fait aujourd'hui qui font partie de notre carte. On a la sésame noire, alors là qui nous a été conseillé par une amie qui nous suit encore aujourd'hui dans l'entreprise, voilà, qui était une fanat du Japon et qui nous a dit il faut absolument que vous fassiez une glace au sésame noir. Vous l'avez hein, si vous voulez goûter. On a la citron curcuma gingembre, la détox,
qui est là aussi.
Et on en a une qu'on n'a pas en ce moment, mais qui est la fraise citron vert vanille huile d'olive, et en fait qui part d'un dessert en fait qui était un dessert.
Et alors ça commence aussi comme à New York, hein, en triporteur.
Tout à fait.
Et puis très vite, on vous demande, mais nous, on veut vous retrouver dans un magasin, on veut venir acheter les glaces.
C'est ça. En fait, la première année, ça a démarré avec des triporteurs, malgré les demandes qu'on a pu faire et qu'on n'a pas été on n'a pas vraiment eu de suite. Mais on l'a quand même fait. Et puis très rapidement, en fait, les gens voulaient nous retrouver sur un point physique. Donc, on a trouvé donc cette boutique à Vauban, boulevard Vauban à Marseille, où on s'est tout de suite senti dans notre élément. Et donc, c'est une boutique qui a ouvert effectivement il y a 2 ans et demi maintenant.
Une boutique, puis deux, puis trois, c'est ça aujourd'hui?
Une boutique. Puis à Marseille, puis Aix l'année dernière, Paris cette année, Square Trousseau. Et voilà, c'est.
Et 15 salariés, c'est ça aujourd'hui?
15 salariés, tout à fait, qui sont répartis en fait entre la production qui était sur Marseille initialement et qu'on a déménagé sur Aubagne en février. Et ensuite une équipe commerciale, parce qu'on a une grosse activité aussi de revente à des professionnels, nos produits, et répartis ensuite sur les boutiques, donc à Marseille, Aix et Paris.
Le coach, Jean Moreau.
Alors moi j'ai goûté, c'est délicieux.
Merci.
Le marketing est magnifique, donc d'un point de vue marketing c'est très réussi. On imagine que c'est un business qui est assez saisonnier. Donc qu'est-ce que vous faites le reste du temps après les 2 mois forts de juin, juillet et août?
On part en vacances.
Vous vendez du vin chaud, vous faites des tisanes, vous faites des soupes?
Non, alors effectivement c'est un marché qui est très saisonnier. Alors pour autant, c'est pour ça qu'on a envie de travailler que des fruits frais. Parce qu'on cherche vraiment à casser cette saisonnalité. Par exemple, en ce moment, on travaille pas la poire, on travaille pas la pomme, on travaille
mais
pas tous ces fruits-là. Et on le fera cet hiver. Voilà. Sur l'hiver, on propose aussi des parfums plus gourmands. On a des parfums plus desserts, comme de la tarte au citron, tiramisu.
Je peux même vous dire qu'il y a des bûches avec un choco whisky, c'est ça?
Chocolat,
je crois qu'il y a eu
whisky.
Des tests assez intéressants.
Exactement. Et on va la refaire cette année, c'est sûr, qui marche très bien. Et voilà. Et donc, il y a forcément une saisonnalité, c'est clair. Mais on essaye vraiment de la casser. Voilà, en travaillant des produits de saison. Et donc en essayant de faire manger de la glace toute l'année aux gens. Il faut savoir que les pays du Nord, c'est les pays qui mangent le plus de glace. Donc il y a forcément un lien avec la température. Mais c'est juste... on va y arriver.
J'ai 2 questions un peu business. Je voudrais savoir, vous êtes en train de faire une levée de fonds pour faire quoi? Pour vous développer à l'étranger, retourner à New York avec des triporteurs ou des magasins physiques?
On a fait une levée de fonds en décembre. En décembre dernier, on a levé 1 million d'euros qui nous ont permis de développer fortement le laboratoire parce qu'on est passé sur une grosse capacité de production et également pour ouvrir les boutiques sur Paris. et ensuite pour développer très fortement l'activité B2B, donc tout ce qu'on appelle restaurant, hôtel, épicerie fine.
Sur la concurrence, il y a par exemple, pas très loin de chez vous d'ailleurs, les Pistoleros qui font à peu près la même chose. Il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui sur ce créneau?
Je pense que oui, clairement.
Clairement. Et la suite, justement, elle va s'écrire comment? Aux États-Unis peut-être demain? C'est une idée que vous avez en tête, hein, je crois.
Alors, aux États-Unis peut-être pas, on verra. Mais en tout cas, d'exporter le produit, oui, on a des idées, on a des pistes déjà.
D'abord,
voilà, on se pose, on est en forte croissance avec tout ce que ça peut impliquer comme chose plutôt positive et comme chose plutôt négative. Mais non, on est plutôt en forte croissance, mais on n'a pas envie de brûler les étapes. On est très content du développement qu'on a. Voilà, et l'export forcément en Europe proche est clairement indispensable. Et ensuite, on verra pour aller un peu plus loin peut-être.
Ça s'appelle M-K-Pop et c'est bâtonné. Combien de parfums?
On a en permanence, on a entre 10 et 15 parfums, mais on est capable d'en faire une cinquantaine en fait et qu'on fait tourner tout au long de l'année.
Et tous ceux que vous n'avez pas encore inventés et qu'on découvrira. Merci beaucoup.
Merci
d'être venu nous en parler aujourd'hui dans La France qui bouge. On se retrouve demain,
avec
bien sûr.
Plaisir.
Merci à Jean Moreau qui était notre coach, fondateur de Phoenix. Je le laisse déguster sa glace.
On en est tous
pareil
là.
Pour vous.
Oui,
Elisabeth
coco, Assayag. C'est délicieux. Et à demain.
Europe 1, Raphaël Duchemin.